43. Seldon passa une nuit agitée. Pour commencer, Dorse avait annoncé qu'elle devait l'accompagner dans sa visite et il avait protesté avec vigueur. « Tout l'intérêt, avait-il expliqué, c'est de l'amener à parler librement, à la confronter à une situation inhabituelle, seule avec un homme, un barbare qui plus est. Maintenant que la tradition est déjà bien ébréchée, il sera facile de l'enfreindre plus avant. Si vous êtes là, c'est à vous qu'elle se confiera, et je n'aurai que les restes. » « Et s'il vous arrive quelque chose en mon absence, comme l'autre fois sur la couverture, rien n'arrivera. »« Je vous en prie, si vous voulez m'aider, restez en dehors de tout ça. Sinon, je ne veux plus avoir affaire à vous. Je suis sérieux, Dorse, c'est important pour moi. Malgré toute l'estime que je vous porte, je n'en démordrai pas. » Elle accepta, non sans réticence, et l'avertit simplement « Alors promettez-moi au moins d'être gentil avec elle. » « Est-ce elle ou moi que vous avez mission de protéger ? Je vous assure que je ne l'ai pas rudoyée par plaisir et que je ne recommencerai plus. » Le souvenir de cette dispute avec Dorse, la première, avait contribué à le maintenir éveillé une bonne partie de la nuit. Il ne pouvait chasser non plus l'idée lancinante que les deux sœurs pourraient ne pas se présenter au matin malgré la promesse de gouttes de pluie 43. Elles arrivèrent cependant, peu après que Seldon eut achevé un petit déjeuner frugal. Il avait décidé de ne pas se laisser grossir par excès de gourmandise et passait une tunique qui lui allait à la perfection. Il en avait soigneusement disposé la ceinture pour qu'elle tombe comme il faut. Toujours avec une lueur glaciale dans le regard, Goutte de pluie 43 annonça « Si vous êtes prêt, barbare Seldon, ma sœur restera avec la barbaresque Venabili. » Sa voix n'était plus ni rauque ni haut perché, comme si elle s'était calmée durant la nuit, s'entraînant mentalement à parler à quelqu'un qui était un mâle mais non un frère. Seldon se demanda si elle aussi avait souffert de l'insomnie, puis répondit « Je suis tout à fait prêt. » Ensemble, une demi-heure plus tard, Goutte de pluie 43 et Harry Seldon descendaient les niveaux les uns après les autres. Bien que, d'après l'heure, on fût en plein jour, il faisait plus sombre ici que partout ailleurs sur Trentor, sans raison apparente. Nul doute que l'éclairage artificiel qui progressait lentement autour du globe de Trentor pouvait inclure le secteur de Mycogène. C'est donc, jugea Seldon, que les Mycogéniens devaient en avoir décidé ainsi, s'accrochant à quelque habitude primitive. Ses yeux s'accoutumèrent à la pénombre environnante. Il essaya de croiser calmement le regard des passants, qu'ils fussent frères ou sœurs. Il estima qu'on devrait les prendre, Goutte de pluie 43 et lui, pour un frère et sa femme, et qu'on ne les remarquerait pas tant qu'ils s'abstiendraient d'attirer l'attention. Malheureusement, il semblait bien que Goutte de pluie 43 fit tout pour se faire remarquer. Elle lui parlait par monosyllabes, à voix basse, lèvres serrées. Il était manifeste que la compagnie d'un mâle non autorisé, même si elle était au courant, la déstabilisait. Seldon était à peu près certain que, s'il lui enjoignait de se détendre, il ne ferait qu'accroître sa gêne. Il se demanda ce qu'elle ferait si jamais elle croisait une connaissance et ne commença à se sentir un peu moins nerveux qu'en arrivant au niveau inférieur, nettement plus désert. La descente ne se faisait pas par ascenseur, mais par des rampes d'escalier mobiles disposées par paires, une pour monter, une pour descendre. Goutte de pluie 43 les appelait des escalators. Seldon n'était pas sûr d'avoir saisi correctement le terme, ne l'ayant encore jamais entendu. À mesure qu'il s'enfonçait de niveau en niveau, Seldon sentait croître son appréhension. La plupart des mondes possédaient des microfermes qui produisaient leur propre variété de micronutriments. Chez lui, sur Helicon, Seldon avait à l'occasion acheté des condiments dans les microfermes et il avait toujours remarqué l'odeur désagréablement écœurante qui les entourait. Les gens qui y travaillaient ne semblaient pas y prendre garde. Alors même que les visiteurs occasionnels fronçaient le nez, ils semblaient s'en accommoder parfaitement. Seldon, toutefois, avait toujours été particulièrement sensible à l'odeur. Il en souffrait et s'attendait à présent à en souffrir. Il eut beau se calmer en se disant qu'il sacrifiait noblement son confort à la recherche de l'information, cela n'empêchait pas l'appréhension de lui nouer l'estomac. Après qu'il eut perdu le compte du nombre des niveaux descendus, comme l'atmosphère demeurait raisonnablement respirable, il demanda « Quand atteindrons-nous les niveaux de la ferme ?»« Nous y sommes déjà. » Seldon inspira un grand coup. À l'odeur, on ne dirait pas.
L'odeur? Que voulez-vous dire?
Goutte de pluie 43 était suffisamment outré pour parler à voix haute. D'après mon expérience, il règne toujours une odeur putride autour des microfermes. Vous savez, à cause des engrais que les bactéries, levures, moisissures et autres saprophytes exigent en général.
Votre expérience.
Elle avait de nouveau baissé la voix.
Et où cela?
Sur mon monde natal. La sœur fit une grimace écœurée.
Et vos concitoyens pataugent dans le lisier?
Seldon entendait le mot pour la première fois, mais d'après le regard et l'intonation, il crut en deviner le sens. Ça ne sent plus comme ça, vous savez, une fois le produit traité pour la consommation, dit-il.
Nos produits ne sentent jamais comme ça. À aucun stade. Nos biotechniciens ont mis au point des conditions parfaites. Les algues poussent sous la lumière la plus pure et dans des solutions électrolytiques équilibrées avec le plus grand soin. Les saprophytes sont alimentés par un savant mélange de matières organiques. Jamais aucun barbare ne saura jamais nos formules et nos recettes. Allez. Venez, nous y sommes. Reniflez tout votre sou, vous ne trouverez rien de nauséabond. C'est l'une des raisons qui font que nos produits sont demandés dans toute la galaxie et que l'empereur, nous a-t-on dit, ne mange rien d'autre. Mais si vous voulez mon avis, c'est bien trop bon pour un barbare, même s'il se baptise empereur.
Elle avait parlé avec une colère qui semblait viser directement Seldon. Puis, comme elle craignait que l'allusion lui ait échappé, elle ajouta
« ou même s'il se baptise invité d'honneur ».
Ils débouchèrent dans un étroit corridor bordé de part et d'autre de vastes cuves de verre épais dans lesquelles roulait une eau verte et trouble pleine d'algues, tourbillonnant sous la pression des bulles de gaz qui la traversaient. Elle devait être riche en gaz carbonique, estima Seldon. Une puissante lumière rosée illuminait les cuves considérablement plus intense que l'éclairage des corridors. Il s'en ouvrit songeur auprès de sa conductrice.
« Évidemment, » répondit celle-ci. « Les algues ont leur meilleur rendement à l'extrémité rouge du spectre. »«
Je présume, » nota Seldon, « que tout est automatisé. » Elle haussa les épaules sans répondre. « Je ne vois pas beaucoup de frères et de sœurs au travail, » insista Seldon.
« Il y a du travail à faire et ils le font, même si vous ne les voyez pas à l'œuvre. Les détails ne sont pas pour vous. Alors ne perdez pas votre temps à en demander. »
« Attendez. » « Ne soyez pas fâchés contre moi. Je ne compte pas découvrir des secrets d'État. » « Allons, mon petit. » Le mot lui avait échappé. Il la prit par le bras alors qu'elle semblait sur le point de détaler. Elle resta immobile, mais il la sentit frémir légèrement, et il la relâcha, gênée. Il reprit. « C'est simplement que tout me paraît automatisé.
Faites toutes les suppositions que vous voudrez. » Toujours est-il qu'il reste de la place ici pour le cerveau et le jugement humain. Chaque frère et chaque sœur ont l'occasion de travailler ici, à un moment ou à un autre. Certains en font profession.
Elle parlait plus librement à présent. Mais, à sa grande gêne, Seldon nota que sa main gauche remontait furtivement vers son bras droit pour y frotter doucement l'endroit qu'il avait touché, comme si elle avait été piquée.
« Cela s'étend sur des kilomètres et des kilomètres, » lui dit-elle. « Mais si nous tournons ici, vous pourrez voir une partie de la section des moisissures. »
Ils poursuivirent la visite. Seldon nota la propreté des lieux. Le verre étincelait. Le sol carrelé semblait humide, mais lorsqu'il se pencha pour le caresser, il constata que ce n'était pas le cas. Il n'était pas non plus glissant, à moins que ses sandales avec le gros orteil qui dépassait à la mode mycogénienne fussent équipées de semelles antidérapantes. Goutte de pluie 43 avait raison sur un point. Ça et là, on voyait un frère ou une sœur travailler en silence, examinant un cadran, ajustant un contrôle, parfois occupé à quelque activité subalterne, comme de briquer le matériel, mais toujours totalement absorbé par sa tâche. Seldon se garda bien de demander ce qu'il faisait pour éviter à la sœur l'humiliation d'avouer son ignorance ou sa colère en lui rappelant que ça ne le regardait pas. Il venait de passer une porte battante et Seldon décela soudain une vague trace de l'odeur qu'il connaissait bien. Il regarda Goutte de pluie 43, mais celle-ci n'en paraissait pas consciente, et lui aussi s'y accoutuma vite. La nature de l'éclairage changea brusquement. Terminé le rose vif, tout semblait baigné dans la pénombre, hormis quelques appareils éclairés, et chaque fois qu'un projecteur était allumé, il semblait y avoir un frère ou une sœur au travail. Certains portaient des bandeaux lumineux qui diffusaient une lueur nacrée, et, à mi-distance, Seldon aperçut çà et là de petites étincelles de lumière qui évoluaient de manière erratique. Tandis qu'ils avançaient, Seldon lorgna, à la dérobée, le profil de la jeune femme. C'était son seul critère de jugement. À tout autre instant, son attention restait accaparée par ce crâne chauve et saillant, ses yeux nus, ce visage sans couleur qui noyait son individualité et semblait la rendre invisible. De profil, toutefois, il pouvait distinguer quelque chose. Un nez, un menton, des lèvres pleines, des traits réguliers, de la beauté. La pénombre lissait en quelque sorte le tout, en adoucissant le grand désert de son front. Il songea avec surprise. Elle pourrait être très belle si elle se laissait pousser les cheveux et s'arrangeait convenablement. Et puis, il songea qu'elle ne pouvait pas se laisser pousser les cheveux. Elle était condamnée à rester chauve toute sa vie. Pourquoi ? Pourquoi avait-elle dû subir cela ? Maître du Soleil disait que c'était pour qu'un mycogénien se reconnaisse comme tel toute sa vie durant. Pourquoi était-il si important que cette maudite calvitie soit acceptée comme preuve d'identité ? Et puis, comme il avait l'habitude de débattre mentalement selon des points de vue opposés, il songea « L'habitude est une seconde nature. Habituez-vous assez longtemps à un crâne chauve, et toute pilosité vous paraîtra monstrueuse et vous donnera la nausée ?» Lui-même se rasait bien le visage tous les matins de près, chassant le moindre poil rebelle, et pourtant il n'avait pas l'impression d'avoir les joues dénudées et ne trouvait à ses traits rien d'anormal. Certes, il pouvait à tout moment se laisser pousser la barbe, si l'envie l'en prenait, mais il n'en avait pas envie. Il savait qu'il y avait des mondes où les hommes ne se rasaient pas, parfois d'autres où ils ne taillaient même pas leur pilosité faciale mais la laissaient en bataille. Que dirait-il en voyant son visage imberbe, son menton, ses joues, ses lèvres sans un poil ? En attendant, il marchait toujours, interminablement, lui semblait-il, à côté de Goutte de pluie 43 qui, de temps en temps, le prenait par le coude pour le guider. Il avait l'impression qu'elle avait fini par s'y habituer car elle ne retirait plus sa main en hâte. Parfois même, elle s'attardait. « Tenez, venez donc par ici !» s'écria-t-elle. « Qu'y a-t-il ? » Il se trouvait devant un petit plateau empli de sphérules d'environ 2 cm de diamètre. Le frère chargé du secteur, et qui venait à l'instant de déposer le plateau, leva les yeux, vaguement intrigué. À voix basse, Goutte de pluie 43 dit à Seldon d'en demander quelques-unes. Seldon s'avisa qu'elle ne pouvait pas parler à un frère tant qu'il ne se serait pas adressé à elle le premier, et demanda à la voix chevrotante « Pourrais-je en goûter quelques-unes, frère ?»«
Prends-en une poignée, frère !»
répondit l'autre chaleureusement. Seldon cueillit l'une des sphères, et il s'apprêtait à la tendre à Goutte de pluie 43 quand il s'aperçut qu'elle avait pris l'invitation à son compte et plongeait dans le plateau à pleine main. La sphère était luisante, lisse. Tandis qu'il s'éloignait de la cuve et du frère qui s'en occupait, Seldon interrogea sa conductrice. C'est censé être comestible. Il porta précautionneusement l'objet à son nez. « Elle ne sente pas, » remarqua-t-elle sèchement. « Qu'est-ce que c'est ?»« Des bouchées, non traitées. » Pour le marché extérieur, on les aromatise avec différents parfums, mais ici, à Mycogène, on les mange tels quels, la seule vraie façon de les déguster. Elle en mit une dans sa bouche et ajouta « Je n'en ai jamais assez ». Seldon mit une sphère dans sa bouche et la sentit fondre rapidement. Un instant après, elle s'était liquéfiée et glissait presque toute seule dans sa gorge. Il resta figé un moment, stupéfait. C'était légèrement sucré, laissant même un vague arrière-goût doux amer, mais l'impression dominante lui échappait. Puis-je en avoir une autre ?
Une demi-douzaine, dit Goutte de pluie 43 en lui présentant sa main ouverte. Il n'y en a jamais deux qui aient exactement le même goût et elles ne contiennent quasiment aucune calorie. Servez-vous.
Elle avait raison. Il essaya de la laisser doucement fondre dans la bouche, de la lécher délicatement, d'y mordre d'un seul coup. Le plus infime contact néanmoins la détruisait. Dès qu'on en avait croqué un fragment, le reste disparaissait aussitôt, et chaque bouchée laissait un goût indéfinissable et pas tout à fait semblable à celui de la précédente.
« Le seul problème, » dit gaiement la sœur, « c'est que de temps à autre on tombe sur une bouchée tout à fait inhabituelle qu'on n'oubliera jamais mais qu'on ne retrouvera jamais non plus. J'en ai mangé une quand j'avais 9 ans. »
Son expression devint soudain grave.
« Utile expérience qui vous enseigne l'évanescence des choses de ce monde. »
C'était un signal, se dit Seldon. Ils avaient assez longtemps déambulé sans but. Elle s'était habituée à lui, au point de lui parler et de lui confier quelque chose d'intéressant. Enfin.